RTL, 18h.
RTL Soir, 18h, 20h.
Daniel Ferrin.
Bonsoir, bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour 2 heures d'information, d'analyse et de décryptage. Isabelle Choquet, bonsoir.
Bonsoir Daniel, bonsoir à tous.
À la une, Eva Joly étriée par la droite, critiquée par la gauche. Fallait pas toucher au défilé du 14 juillet.
La candidate des Verts à la présidentielle a proposé de remplacer le défilé militaire par un défilé citoyen. Cette dame n'a pas une culture très ancienne des valeurs françaises, c'est ce que déclare François Fillon. Vous allez entendre la réponse d'Eva Joly, elle persiste et elle argumente.
Et invitée de RTL Soir à 18h20, Cécile Duflot, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts.
Toujours aucune trace d'Anne Caudal, cette jeune femme enceinte disparue vendredi dernier du côté de Rennes. Ses proches sont convaincus qu'elle a fait une mauvaise rencontre. À suivre également la 4e réunion du groupe de contact sur la Libye. Il n'y aura pas de trêve des frappes pendant le Ramadan et le Conseil national de transition est reconnue comme gouvernement provisoire. Le temps presse, déclaration de Barack Obama en pleine épreuve de force sur le relèvement du plafond de la dette fédérale.
Quelle est la résistance des banques européennes face à la crise? Des tests ont été effectués, résultats imminents. Est-ce que les banques françaises sont concernées? Est-ce que nous devrons faire encore plus d'efforts à la rentrée? Invité de RTL Soir, Charles-Amédée de Courson, vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale.
La bourse de Paris termine en baisse ce soir de 0,66%. Le CAC 40 s'établit à 3 726 points.
Et puis Fabuleuse Destinée sur RTL, la chronique estivale de Jean-Alphonse Richard sur celles et ceux qui ont marqué le monde des arts ou de la science. Ce soir, l'histoire d'une phénoménale réussite, celle de Charles Aznavour. La météo, Marlène Duré, bonsoir.
Bonsoir.
La pluie demain revient par le sud-ouest.
Oui, arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse qui donnera le ton pour le week-end avec un ciel qui se couvrira progressivement de la Bretagne et des côtes de la Manche à la frontière belge, l'Île-de-France, le centre, le Poitou, le Limousin, jusqu'en Aquitaine, avec des pluies plus régulières le long de la Manche. En revanche, il continuera à faire beau à l'est du pays, en particulier de l'Alsace à la Provence et à la Corse. Les températures maximales baisseront un petit peu à l'ouest. Prévoyez 18 à Brest, 25 à Paris, jusqu'à 30 degrés à Montélimar.
Merci Marlène, à tout à l'heure, 18h30, juste avant le club Jalabert.
Et sur les routes, nouveau week-end de grand départ, mais bon, certains sont partis dès mercredi grâce au pont du 14 juillet. Du coup, qu'est-ce que ça donne, Nicolas Georges?
C'est très chargé ce soir sur la 9 en direction de l'Espagne, notamment à Béziers, avec un temps de traversée estimé à 2 heures. Également, des difficultés à Le Cat et à Perpignan, toujours sur cette autoroute A9. Ça coince également aux abords de Montpellier dans les deux sens. Et puis sur l'A61, c'est fortement ralenti à Carcassonne en direction de Narbonne. Autre point noir ce soir, l'A75 en direction du sud, avec 12 km de bouchons à hauteur de Saint-Marie-le-Plain dans le Cantal, en vallée du Rhône. Ça coince sur l'A7 à Sessuel et à Valence. Et sur la Nationale 7 à Reventin, au sud de Vienne. Enfin, en Ile-de-France, chose plutôt inhabituelle pour un vendredi soir, ça roule plutôt bien ce soir. Le trafic est dense, mais sans difficulté importante à signaler. On termine avec le bon plan Carbéo sur l'A10 en direction de Bordeaux. La station la moins chère, c'est la station Avia sur l'aire de Poitiers au kilomètre 292. Le bon plan carburant est à retrouver sur RTL.fr.
Ça roule à Paris, on aura tout vu. Merci Nicolas Georges. Si vous avez choisi le train, attention, le trafic sera totalement interrompu ce week-end en gare de Nancy entre demain 14h30 et dimanche 15h30. Un aiguillage manuel qui date des années 50 va être informatisé. Ça mobilise 150 cheminots.
RTL. Tour de France 2011.
On a frôlé la victoire miraculeuse à Lourdes pour les Français, mais c'est Tore Hushovd qui a remporté la 13e étape.
Victoire en solitaire pour le Norvégien qui s'est imposé avec 9 secondes d'avance sur le Français David Moncoutier. Et un autre Français, Jérémy Roy, a pris la 3e place à une vingtaine de secondes. 3e place seulement, malgré une échappée fantastique. Grosse déception, Christian Olivier.
Ah, c'est une énorme déception ce soir à Lourdes pour Jérémy Roy, l'incontestable grand animateur de cette première partie du Tour de France, dans 5 échappées depuis le départ vendéen, en tête au sommet du Tourmalet hier, en tête de l'Aubisque aujourd'hui, après avoir décroché ses 9 compagnons d'infortune. Seul face au vent dans la descente, il sera finalement rejoint par un spécialiste, le Norvégien Tore Hushovd, ancien porteur du maillot jaune, dépassé aussi par son compatriote David Moncoutier. Roy, 3e à 26 secondes du vainqueur de l'étape, lessivé, découragé, ce diplômé en sciences appliquées, major de sa promotion avant d'être coureur professionnel, tentait une explication à l'arrivée.
La déception est trop grande aujourd'hui. J'avais du mal à digérer. La vallée vend de face le retour. C'était trop dur pour moi. Bon, pas grand-chose ou beaucoup. C'est la gang qui compte et c'est tout. Avec le recul, je vais me dire que c'était une super étape. Mais là, la déception est immense. Je suis pas un champion, donc je fais avec mes moyens et j'essaye de déjouer le peloton. Et voilà, j'ai encore échoué aujourd'hui.
Toujours pas de victoire française sur ce Tour de France, mais un joli tir groupé sur les maillots distinctifs. Le blanc de meilleur jeune pour Arnold Jeannesson, le maillot à poids de meilleur grimpeur donc pour Jérémy Roy, et le maillot jaune pour Thomas Voeckler avec un peloton et ses favoris pointés à 7,37 du Norvégien Uchoft. Demain, les coureurs rejoindront le plateau de Bay pour un nouveau morceau de choix du Tour de France et peut-être un nouveau morceau de bravoure pour Thomas Voeckler.
Merci Christian Olivier en direct de la route du Tour à Lourdes. À 18h30, comme chaque jour, vous avez rendez-vous dans le club Jalabert avec Christophe Paco. Le retour de Laure Manaudou. La Française participe au meeting d'Athènes aux États-Unis. Elle a terminé le 200 mètres nage libre avec le deuxième temps du Tour préliminaire, assez loin, il faut le dire, de son record du monde de 2007.
RTL Soir.
Isabelle Choquet, Daniel Ferrin.
Avec sa proposition de supprimer le défilé militaire du 14 juillet, Eva Joly fait presque l'unanimité contre elle.
La candidate des Verts à la présidentielle a suggéré hier de le remplacer par un défilé citoyen avec des enfants, des étudiants, des seniors. Mais voilà, on ne s'attaque pas impunément à une institution vieille de 130 ans. Depuis hier, les critiques pleuvent. La dernière en date, et peut-être la plus glaciale, c'est celle de François Fillon. Je pense que cette dame n'a pas une culture très ancienne des traditions françaises. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre en cours d'un déplacement en Côte d'Ivoire. Mais la proposition d'Eva Joly est généralement très mal accueillie aussi à gauche. L'ancienne magistrate se trouve actuellement à Avignon. Elle participe à des débats en marge du festival. Yaël Gauze, vous y êtes pour RTL. Alors comment réagit Eva Joly? Elle n'imaginait peut-être pas susciter autant d'indignation.
Imperturbable, Eva Joly, sous les platanes, dans un petit cloître, passe l'après-midi avec une poignée de militants pour parler de politique culturelle. Depuis Abidjan, François Fillon sonne la charge. La candidate lui répond depuis Avignon.
Moi, je ne descends pas de mon drakkar. Ça fait 50 ans que je vis en France et donc je suis française. Et ce n'est pas parce que je soulève ce qui pour moi est un vrai problème qu'on doit me discréditer parce que je ne serai pas assez française.
Est-ce que c'était le moment de le dire alors qu'il y a 6 soldats qui sont morts en Afghanistan?
J'ai, comme tous les Français, j'ai du chagrin lorsque je vois que des soldats meurent. Mais il y a dans notre pays 10 millions de volontaires dans les associations qui représentent en réalité la vie démocratique française. Et pourquoi ce ne serait pas eux qui défileraient?
Est-ce que François Fillon surfe avec l'extrême droite?
Sa déclaration, elle est incongrue. J'ai vécu sans doute plus longtemps en France que lui. C'est en fait la continuation de leur discours d'opposer les Français les uns aux autres.
Eva Joly qui persiste et signe quasiment seule contre tous, UMP, PS, il n'y a guère que Jean-Luc Mélenchon pour fustiger les pisse-vinaigres, comme il dit, qui s'en prennent à la candidate écolo. Eva Joly sous le feu des projecteurs, 3 jours seulement après son investiture. C'était là sans doute l'effet recherché.
Yaël Gauze, donc à Avignon pour RTL, à Avignon où se trouve donc Eva Joly en marge du festival.
Voilà une semaine exactement qu'on est sans nouvelles d'une jeune femme enceinte dans la région de Rennes et pour l'instant les recherches restent vaines.
Anne Caudal a emménagé il y a quelques semaines à peine à Bru, au sud de Rennes. Elle a disparu vendredi dernier sans prendre sa voiture. C'est son compagnon qui a donné l'alerte le lendemain. Depuis, aucun mouvement n'a été enregistré sur sa carte bancaire. Pour l'instant, aucune piste n'est écartée, mais pour les proches de la jeune femme, pas de doute, ça ne peut pas être une fugue ou un suicide. Nicolas Bobby les a rencontrés pour RTL.
Une mauvaise rencontre. C'est la thèse privilégiée par la famille de la jeune femme, fleuriste dans un hypermarché de Ploërmel, dans le Morbihan. Sa tante, Françoise, vit dans l'angoisse.
On a exclu complètement le thèse du suicide. On a exclu complètement la fugue. Étant donné que les chiens policiers reviennent toujours à la voiture de Nanou, effectivement, la thèse qui maintenant reste la plus plausible, c'est l'enlèvement.
Une mauvaise rencontre.
Une mauvaise rencontre. Elle s'est trouvée face à quelqu'un au mauvais moment.
Pour la tante, Anne Caudal n'avait aucune difficulté dans son nouveau couple. Elle était épanouie.
Elle était super heureuse avec son mec. Ils venaient de trouver un appart. Ils avaient l'autorisation de vivre ensemble. Parce que lui est en train de divorcer. Et Nanou voulait faire les choses claires en disant « Quand ça sera clair, on ira ». Là, ils venaient d'avoir l'autorisation. Ils prenaient leur appart. Ils attendaient leur bébé. Enfin, Nanou, les photos, elle éclate de rire. Elle est heureuse, heureuse, heureuse.
Une cinquantaine de gendarmes travaillent en ce moment sur cette disparition. Anne Caudal doit fêter demain ses 28 ans.
Nicolas Bobby, Rennes pour RTL. Autre disparition inquiétante dans l'Hérault. Un jeune homme de 25 ans qui habite Latte s'est volatilisé dans la nuit de samedi à dimanche après une soirée en discothèque. Il a raccompagné un ami en voiture. Son véhicule a été retrouvé à 40 km de chez lui. Ce garçon est parti sans argent ni téléphone portable. Étrange affaire à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Un incendie s'est déclaré hier matin au rez-de-chaussée d'un immeuble dans un ancien commerce. Sur place, une femme d'une cinquantaine d'années a été retrouvée morte, mais les causes du décès ne sont pas encore connues. Par ailleurs, un homme d'une trentaine d'années a pu être secouru. Il est grièvement brûlé, mais il porte aussi des traces sanglantes. On a d'ailleurs retrouvé de nombreuses traces de sang dans les locaux incendiés. Bref, cet incendie a peut-être été allumé pour dissimuler autre chose. À Paris, un homme se trouve ce soir entre la vie et la mort après un vol à l'arraché. Ça s'est passé mercredi matin, un peu avant 8h, à la porte de Montreuil, dans le 20e arrondissement. La victime a fait une lourde chute quand le voleur lui a pris sa sacoche. Elle souffre de très graves blessures.
RTL Soir, 18h10.
RTL Soir, 18h-20h.
Daniel Ferrin. Protection contre la chaleur jusqu'à 93%. Isolation phonique du bruit de la pluie. Sécurité renforcée. Découvrez la nouvelle génération de volets roulants Velux, le complément idéal de vos fenêtres Velux. Plus d'infos sur velux.fr.
RTL Soir, 18h11, Isabelle Choquet, Daniel Ferrin.
Le groupe de contact sur la Libye s'est réuni aujourd'hui pour la quatrième fois à Istanbul. La pression s'accentue sur le régime du colonel Kadhafi.
Pas question de respecter une trêve dans les frappes aériennes de l'OTAN pendant le Ramadan qui débute le 1er août. Et plus que jamais, Gwendoline De Bono, les Occidentaux soutiennent les rebelles.
Et oui, parce que les 30 pays du groupe ont reconnu le Conseil National de Transition, l'organe politique des rebelles, comme la seule autorité de l'État libyen. Avant, le CNT n'était que l'interlocuteur légitime. Alors la différence, c'est que ça leur donne un statut diplomatique qui va permettre, par exemple, de les soutenir financièrement, comme le détaille le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé.
Il faut aider davantage le Conseil national de transition sur le plan matériel et nous allons pouvoir dégeler un certain nombre d'avoirs appartenant à l'État libyen puisque nous reconnaissons que c'est le Conseil national de transition qui exerce désormais cette responsabilité.
Le total des fonds gelés du clan Kadhafi s'élève à plusieurs centaines de millions de dollars. Une aide conséquente pour les rebelles qui vont devoir former un gouvernement démocratique. Pas simple pour ce Conseil de transition très divers qui ne contrôle que l'Est. Dans le même temps, la pression militaire reste constante côté français, oublier l'idée d'une trêve des bombardements à partir du 1er août, début du jeûne du Ramadan.
Les représentants de plusieurs pays musulmans nous ont clairement indiqué qu'il n'y avait pas de contre-indication entre la période de Ramadan et la poursuite d'une opération qui vise à protéger les populations civiles.
La communauté internationale répète toutefois le mantra, la solution ne peut être que politique avec une exigence, le départ de Kadhafi, alors qu'hier le vieux colonel appelait ses partisans à marcher sur Benghazi, ajoutant même qu'il resterait jusqu'à la dernière goutte de son sang.
Merci Gwendoline De Bono. En Syrie, nouvelle manifestation monstre et nouvelle répression sanglante. Plus d'un million de personnes ont défilé cet après-midi à Damas, à Dera ou à Idleb pour réclamer la chute du régime. Les forces de sécurité ont ouvert le feu à balles réelles, bilan 17 morts parmi les civils.
En pleine épreuve de force sur la dette fédérale américaine, Barack Obama vient d'adresser un message à la nation.
Voilà 5 jours que l'administration démocrate négocie avec ses adversaires pour obtenir un relèvement du plafond légal de la dette qui a désormais atteint le maximum autorisé. Très agacé, le président américain a annoncé hier aux élus qu'ils avaient entre 24 et 36 heures pour trouver un accord. Les États-Unis risquent le défaut de paiement à partir du 2 août. Le temps presse, vient de déclarer Barack Obama à New York pour RTL. Karim Lebourg.
Il ne reste que 17 jours avant que les États-Unis ne se retrouvent en défaut de paiement. Barack Obama a donc voulu taper du poing sur la table et prendre à témoin le public américain. Un accord est possible, a-t-il dit, mais il faut que les républicains acceptent des augmentations d'impôts pour les plus riches. Les milliardaires et les millionnaires peuvent contribuer davantage. Nous pouvons supprimer les niches fiscales pour les compagnies pétrolières, mais nous ne pouvons pas demander de sacrifices à la classe moyenne qui travaille dur si nous ne demandons pas aux plus riches d'en faire aussi. La majorité républicaine refuse toute hausse des impôts et demande au contraire des coupes supplémentaires dans les budgets sociaux, en particulier les deux programmes d'assurance santé les plus emblématiques, Medicare et Medicaid. Excédé, Barack Obama a quitté la table des négociations mercredi. Le président donne 24 heures aux deux parties pour faire de nouvelles propositions.
Karim Lebourg à New York pour RTL. En Italie, le Parlement a définitivement adopté cet après-midi le plan d'austérité du gouvernement Berlusconi. Il prévoit 48 milliards d'euros d'économies avec comme objectif de ramener le déficit public à l'équilibre d'ici 2014. Au-delà, il s'agit bien sûr d'éviter la contagion de la crise de la dette dans la zone euro. Actuellement, près d'une centaine de banques européennes ont subi des tests de résistance. 8 banques ont échoué, 5 espagnoles, 2 grecques et une banque autrichienne, mais aucun problème pour les banques françaises.
Charles Amédée de Courson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député Nouveau Centre de la Marne, vice-président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Le critère pour les banques était de disposer d'au moins 5% de fonds propres solides de façon à pouvoir absorber les défaillances d'autres banques ou d'État. Alors, on vient de le dire, les banques françaises ont toutes réussi le test.
Oui, vous savez que nous avons l'un des meilleurs systèmes bancaire européen du point de vue de la stabilité financière. Hein. Les fonds propres des banques françaises sont nettement supérieurs à celles de banques d'autres pays, par exemple de l'Allemagne, par exemple de l'Espagne, bien sûr, voire et de la Grande-Bretagne. Donc de ce point de vue-là, nous avons une meilleure protection. Mais il faut bien voir que le problème, c'est que si vous avez un certain nombre de grandes banques d'autres grands pays européens qui se crachaient, comme on dit, eh bien, ceci aurait des conséquences sur nos propres banques.
Par exemple, est-ce que l'autorité bancaire européenne a tenu compte de l'hypothèse d'une défaillance de l'État grec ?
Non.
Est-ce que ça ne fausse pas les résultats, alors, monsieur de Courson ?
Si, mais vous savez, quand on est dans une crise qu'on appelle systémique, à ce moment-là, ça relève d'autres décisions des autorités publiques. C'est ce qui est déjà arrivé. Et le système bancaire européen a été sauvé par l'intervention des États, y compris en France, où c'était pas une crise d'ailleurs des fonds propres des banques françaises à une exception. C'était une crise qu'on appelle de liquidité, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient plus à s'approvisionner sur le marché. Et donc, il y a une intervention de l'État pour leur maintenir leur liquidité. Sinon, ils ne pouvaient plus faire face à leurs engagements.
François Baroin, le ministre de l'Économie, a déclaré que la réduction du déficit budgétaire de la France par étape à 3% d'ici 2013 est intangible. Est-ce que c'est réalisable ?
Ah, c'est réalisable si on se donne les moyens de le réaliser.
Si on fait des efforts supplémentaires, c'est cela, monsieur de Courson ?
Des efforts supplémentaires. Si vous voulez, l'ordre de grandeur des efforts supplémentaires, c'est de l'ordre de 6 milliards. Ce qui, au regard d'un budget qui, en dépenses brutes, tourne autour de un peu plus de 370 milliards, ça représente un peu moins de 2% d'efforts supplémentaires.
Oui.
Et là-dessus, nous disons depuis des mois et des mois qu'il faut aller plus loin sur la réduction des niches fiscales et des niches sociales, puisque la somme des niches fiscales et des niches sociales sont de l'ordre de 115 milliards.
Oui, par exemple, les emplois à domicile, les avantages liés à l'outre-mer, c'est des pistes qui sont étudiées ?
Alors, vous savez, il y a deux façons d'aborder le problème. Il y a ce qu'on appelle la méthode du bouquet ou la méthode du rabot. La méthode du bouquet, ça consiste à prendre dans les 400 mesures de niches fiscales ou de niches sociales les plus importantes, en général, et puis d'essayer de le réduire fortement. Et puis, il y a une autre méthode, c'est la méthode du rabot, c'est de dire, bon, on a 115 milliards de niches fiscales et de niches sociales, on a besoin de 6 milliards supplémentaires, on fait 5 à 6% d'un coup de rabot sur tout le monde. Bon, grosso modo, c'est ça les deux approches. Naturellement, la première méthode est plus intelligente que la seconde. Son inconvénient, c'est que si vous attaquez à 4, 5, 6, 7 principales niches, vous allez avoir les chiens qui vont sortir des niches, comme on dit, c'est-à-dire en termes clairs, les gens qui en bénéficient, qui vont dire pourquoi vous attaquez à nous alors qu'il y en a 390 autres auxquels vous ne touchez pas. Donc pourquoi nous et pas eux ? L'autre méthode, la méthode du rabot, naturellement, elle est beaucoup plus primitive, si je puis dire, mais elle a un grand avantage politique, c'est de dire tout le monde doit faire des efforts, on demande des efforts à tout le monde, mais des efforts raisonnables.
Merci Charles-Amédée de Courson, député du Nouveau Centre de la Marne, vice-président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale.
Allez, on va prendre un peu l'air, Daniel, au cœur de cette actualité pas toujours très souriante. Prenons donc la route des vacances. 3e vague de migration estivale ce week-end, la plus importante. Il y a du monde sur le bitume, mais comme le Farniente est au bout de la route, le trajet est plutôt détendu. Ambiance sur l'aire de repos de Sestas en Gironde avec Jean-Marc Terrier.
Oui, une heure de repos qui ne désemplit pas et qui accueille les grandes transhumances nord-sud. Antonio vient de la région parisienne, direction l'Espagne.
Nous faisons à ce moment 500 km. Nous allons manger pour arriver à Saint-Sébastien.
On voyage en famille.
C'est maman qui gère le petit bébé. La route, ça va. Bon, c'est les vacances, on fait des petits caprices, mais ça va dans l'ensemble.
On voyage en groupe. Comme par exemple cette dizaine de jeunes du centre de loisirs de Bayonne.
On était à Châtelet-en-Plage dans un camping, on est allé au Francofolie, on est allé visiter Fort Boyard.
On s'est bien amusé, on n'a pas beaucoup dormi, mais on s'est bien amusé. Donc.
Et le camion aussi, je vois, lui, il est bien. Hein.
Le camion, il est plein.
Même pas une couverture supplémentaire.
Non, on est ouvert au bouquet.
Et puis on voyage à l'air libre. avec un engin un peu particulier. C'est le cas de ce papa avec ses deux enfants.
C'est une moto, une trois roues, un trike. Il y a la conduite un peu de la moto et un peu les inconvénients de la voiture pour les bouchons et ainsi de suite. Quoi.
Il y a trois places alors?
Il y a trois places, ouais. Là, j'ai joué pour deux jours, donc j'ai parti avant-hier et puis voilà.
Et vous aviez déjà piloté quelque chose comme ça?
Non, c'est la première fois.
C'est impressionnant parce que ça fait quoi? Ça fait 2,50 m de long, 3 mètres?
Même presque 4 même.
Sur la route, on vous remarque, je suppose?
Ouais, tout le monde nous regarde. Même les motards nous disent bonjour et tout, c'est super. C'est un cadeau pour eux en fait. Ils ont eu leur examen tous les deux, donc voilà, je l'avais dit papa et puis papa il l'a fait.
Le reportage RTL de Jean-Marc Terrier sur l'aire de Sestas en Gironde. Bonnes vacances à tous et bel été pour ceux qui ne partent pas. Déclassé, Raymond Domenech, le jeu de France 3 à l'étoffe des champions dont il est l'une des vedettes ne sera plus programmé en prime time à partir de mercredi prochain. Il est relégué en deuxième partie de soirée. Les audiences sont trop mauvaises. À la place, France 3 va diffuser des Racines et des Ailes. Pas le même genre, c'est sûr.
RTL soir, 18h20.
On marque une pause, invité de RTL Soir, Cécile Duflot, secrétaire nationale Europe Écologie Les Verts, en réaction après les propos d'Eva Joly sur la suppression du défilé militaire du 14 juillet.
RTL Soir jusqu'à 20h,
Daniel Ferrin.
Cet été, je vous promets un chin-chin encore plus fou. Plus fou parce que jusqu'au 31 juillet, ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour un euro de plus. Et surtout, encore plus fou parce que Chin-Chin Nouvelle Génération, maintenant, c'est pour vous ou pour qui vous voulez.
Chin-Chin Nouvelle Génération spécial été, c'est seulement jusqu'au 31 juillet et c'est seulement chez Afflelou. Voir conditions en magasin.
Vite, vite, écoutons l'idée fraîche Intermarché pour mon week-end.
Voici de superbes filets de saumon élevés en Norvège à 7,90€ le kilo seulement.
7,90€ le kilo?
Oui, mais attention, des filets de saumon à ce prix-là, c'est jusqu'à demain seulement.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Dans les magasins équipés d'un rayon marée traditionnel.
RTL Soir, 18h21, Daniel Ferrin.
Elle a été intronisée il y a peu de temps, candidate d'Europe Écologie Les Verts à la présidentielle. Et déjà, elle crée la polémique. Eva Joly s'est attaquée au défilé militaire du 14 juillet. Elle souhaite le voir remplacé, à très court terme, par un défilé citoyen, avec des enfants, avec des étudiants et avec des seniors. Voilà donc ce qui crée aujourd'hui la polémique au sein de la classe politique. Écoutez tout de suite, parce que c'est la première fois que nous allons l'entendre, la réponse de François Fillon. Il était à Abidjan, et c'est un élément de nos confrères de LCI.
Je réagis avec tristesse. Je pense que cette dame n'a pas une culture très ancienne des traditions françaises, des valeurs françaises, de l'histoire française. Les forces armées françaises concourent au bon fonctionnement de la démocratie dans notre pays. Et c'est normal de leur rendre hommage. Et je vous dis que vraiment, je crois qu'il y a bien peu de Français qui partagent la vie de Madame Joly.
Cécile Duflot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Déjà, un premier mot de votre part sur la proposition d'Eva Joly. Est-ce que vous ne la trouvez pas un petit peu déplacée?
Non, d'abord, il y a un vrai sujet, c'est au-delà de la proposition qu'a faite Eva Joly, sur laquelle je reviendrai, c'est les propos du Premier ministre, les propos d'un certain nombre de responsables UMP qui mettent en cause la qualité même d'Eva Joly et son attachement à la France. Je trouve ça absolument insupportable et insultant. Et justement, puisque ce défilé pose la question des valeurs de la République, ce qui est un vrai sujet, il faut se souvenir de quoi on fête l'anniversaire le 14 juillet. On fête l'anniversaire de la fête de la Fédération, des valeurs de liberté, d'égalité, de solidarité entre les régions et aussi de fin des privilèges. Et moi, je pense qu'il n'est pas anecdotique que, main sur le cœur, certains aient l'air choqués, et notamment le Premier ministre et un certain nombre de responsables UMP, alors que c'est eux qui, depuis des mois maintenant, foulent aux pieds réellement les valeurs de la République.
Alors, Ségolène Royal appelle au calme, et elle demande à Eva Joly de faire attention à ce qu'elle dit. Et je reviens sur ma question, est-ce que ce n'est pas des propos un petit peu déplacés, le jour du 14 juillet, de dire ça, Cécile Duflot?
Moi, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que j'ai une immense estime, d'abord une très longue culture française et comme vous avez vu, connaissance historique, sans doute meilleure que celle du Premier ministre, et que je sais d'où vient le défilé militaire du 14 juillet. C'est pas du tout quelque chose qui date de la Révolution française. Ça a été fabriqué justement pour essayer de resserrer les rangs après la défaite de la guerre de 1870, dans une époque qui a préparé la guerre de 1914 extrêmement guerrière. Et pour moi, les valeurs de la République, ce sont pas celles-là. Et j'ai une immense estime pour les militaires et je sais que ce sont eux les premiers qui savent à quel point la guerre peut être sale, dangereuse et qu'il faut à tout prix l'éviter. Et que donc pour moi, les valeurs de la République, ce sont d'abord des valeurs de paix. et que le président de la République a qui plus est transformé ce défilé en une espèce de moment de propagande pour les dictateurs africains. Il y a 3 ans, à la tribune d'honneur, il y avait Bachar el-Assad, le président syrien, le dictateur syrien. Je crois vraiment qu'on a le droit de se poser la question de savoir s'il n'y a pas un meilleur moyen aujourd'hui de défendre justement les valeurs de la République qui en ont bien besoin.
Revenons, Cécile Duflo, si vous le voulez, sur les propos de François Fillon, le Premier ministre. Il estime donc que cette dame n'a pas une culture très ancienne des traditions françaises. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui est un peu surprenant, disons, dans les propos de François Fillon ?
C'est pas surprenant, je pense qu'il s'exprime et il est Premier ministre de la France, quasiment comme Madame Le Pen. Je trouve ça absolument scandaleux, invraisemblable. Je ne sais pas comment il peut même lui-même s'autoriser à mettre en cause de cette manière une de nos concitoyennes, justement au profit théoriquement des valeurs de la République. Le principe, c'est l'égalité. Dans une démocratie, on a le droit de débattre, on a le droit de dialoguer. Eva Joly est peut-être même française depuis plus longtemps que lui, étant donné son âge. Elle est française depuis 50 ans. Je crois qu'on est vraiment dans une situation qui devient de plus en plus scabreuse, que le débat sur la binationalité est absolument scandaleux, qu'on est en train d'essayer de faire penser qu'il y aurait des Français de différentes catégories et qu'on va devoir bientôt présenter son arbre généalogique pour complaire au Premier ministre. Je trouve ça insupportable.
Daniel Cohn-Bendit en avait souffert aussi en son temps.
Oui, mais c'est un signe. Vous savez, je sais que dans notre pays, il y a sans doute aujourd'hui un quart des jeunes de moins de 25 ans qui ont un membre de leur famille proche, soit parent, soit grand-parent, qui est d'origine étrangère. Je crois que ces responsables politiques sont complètement décalés de la réalité de la France. Moi, j'ai entendu, il y a peu de temps, quelqu'un me dire « je ne sais pas si je vais pouvoir rester en France, étant donné que ma femme est née au Portugal ». Voilà donc dans quel monde maintenant et dans quel pays, voilà ce que ces responsables politiques ont fait de mon pays, la France. Et moi, je peux vous dire, j'ai honte au nom de ceux qui, effectivement, ont leurs racines dans ce pays depuis des années, depuis la Révolution française. Qu'un Premier ministre de mon pays puisse tenir de tels propos, je suis extrêmement choquée.
Cécile Duflo, vous ne craignez pas quand même que Eva Joly, qui est donc candidate à la présidentielle de 2012, traîne, disons, un petit peu cette histoire tout au long de la campagne ?
Écoutez, ce que je crois surtout, c'est que la manière dont on a parlé d'Eva Joly révèle justement la nécessité que le débat mettre bien les choses au clair. Que ceux et celles qui voudraient croire qu'il y a ici dans ce pays des gens de seconde catégorie, des Français de seconde catégorie, eh bien qu'on puisse le voir au jour. Et on verra que la France de Nicolas Sarkozy, la candidature de Nicolas Sarkozy, étant donné son histoire, c'est quand même très paradoxal, c'est de renvoyer des Français au dos des autres. Et ça, c'est un scandale. Et si ça peut permettre de mettre à jour ce débat politique, on verra qui porte vraiment les valeurs de la République. Et je pourrais vous le dire, ce seront évidemment et de façon très très claire les écologistes.
Merci Cécile Duflo pour cette première réaction en exclusivité sur RTL. Cécile Duflo, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts.
RTL Soir, 18h27.
RTL Soir, 18h20.
Daniel Ferrin. RTL.
Gagner plus.
À la question du grand jeu Garmin, en quelle année Garmin a lancé le premier GPS ? La réponse est 1991. À demain avec Garmin pour une nouvelle question. Il est 18h28.
RTL Soir jusqu'à 20h.
Daniel Ferrin.
Le rappel des titres tout de suite sur RTL avec Isabelle Choquet.
Eva Joly critiquée de toutes parts pour avoir proposé la suppression du défilé militaire du 14 juillet. Elle veut le remplacer par un défilé citoyen. Je pense que cette dame n'a pas une culture très ancienne des valeurs françaises. C'est ce que rétorque François Fillon. Invité d'RTL Soir à l'instant, Cécile Duflo dénonce une attaque scandaleuse. Une centaine de banques européennes soumises à des tests de résistance. Une simulation de récession prolongée. Toutes les banques françaises s'en sortent, Philippe Roy-Contensin.
Oui, effectivement, 8 banques sur 86... 10 en Europe ont échoué, mais pas une seule banque française. Elles ont passé avec succès ces tests de résistance. Celles qui ont échoué, eh bien, c'est un établissement autrichien, 5 banques espagnoles et 2 grecques. Ces banques auront besoin de 2,5 milliards d'euros pour se renforcer. Alors, ces tests de résistance étaient basés sur un scénario de récession pendant 2 ans, une chute de la bourse européenne, un plongeon de l'immobilier, mais on a oublié la défaillance d'un État qui tomberait en faillite, comme éventuellement l'État grec. Les résultats de ces tests ont quand même rassuré les marchés sur la solidité de la monnaie européenne, qui se renforce légèrement ce soir face au dollar. Et au final, en 2011, il y a moins de banques européennes qui ont échoué au stress test qu'en 2010.
Merci Philippe Roy-Contencin en direct de Bercy pour RTL. L'inquiétude du côté de Rennes. Voilà une semaine qu'une jeune femme enceinte a disparu sans prendre sa voiture. Sa carte bancaire n'a pas été utilisée depuis. La météo, Marlène Duré. Demain, ça se gâte par le nord-ouest.
Oui, un retour d'un temps gris à l'ouest d'une ligne La Rochelle-Lille. Demain matin, avec des pluies faibles essentiellement en Bretagne et en Basse-Normandie. Ce ciel couvert et humide gagnera ensuite l'Île-de-France, le Poitou-Charentes, le centre et le sud-ouest, avec des pluies plus régulières de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Plus on ira vers l'est du pays, plus le ciel sera bleu. Côté Mercure, 18 degrés de minimale à Brest, 24 à Bordeaux, 25 à Paris, jusqu'à 30 degrés à Montélimar.
On redit un mot du week-end, Marlène, s'il vous plaît.
Un mot du week-end, oui. Donc cette perturbation va entrer un petit peu plus dans le pays. Donc samedi soir, attention, des pluies qui seront plus importantes vers l'Île-de-France et le Nord-Picardie. Ensuite, dimanche, tôt le matin, les pluies se renforceront du sud-ouest au nord-est.
Merci beaucoup, Marlène Duré, dans le journal d'Isabelle Choquet.
RTL soir, 18h30.
Dans un instant, le club Jalabert, Laurent Jalabert, le consultant cyclisme de RTL,
et Christophe Paco.
RTL soir, jusqu'à 20h.
Daniel Ferrin.